Guerre et paix. Première partie, chapitre 4, scène 16. Il y avait longtemps que la musique n'avait fait éprouver à Rostov de pareilles jouissances. À peine Natacha eut-elle fini sa barcarolle que le sentiment de la réalité lui revint et il gagna sa chambre sans mot dire. Un quart d'heure après, le vieux comte revenait du club, gai et content. Son fils se rendit chez lui.
Eh bien, t'es-tu amusé ?
Lui demanda-t-il en souriant d'orgueil à sa vue. Nicolas essaya en vain de dire oui. Il étouffait. Son père allumait sa pipe sans remarquer son trouble.
« Allons, c'est inévitable, »
pensait-il. Et prenant un ton dégagé qui lui fit honte à lui-même, et comme s'il ne s'agissait que de demander une voiture à son père pour aller faire un tour de promenade,
« Papa !»
lui dit-il.
« Je suis venu pour affaire, je l'avais presque oublié, j'ai besoin d'argent. »« Vraiment ?»
lui répondit le vieux comte, qui était très bien disposé ce soir-là.
« Je savais bien que ce ne serait pas assez. T'en faut-il beaucoup ?»« Oui, beaucoup. »
répliqua-t-il en affectant un laisser-aller niais et indifférent.
« Oui, j'ai un peu perdu, pas mal, beaucoup même, 43 000 roubles. »« Comment ? Avec qui ? Mais c'est une plaisanterie !»
s'écria le comte, dont la nuque se couvrit d'une rougeur apoplectique.
« Je me suis engagé à payer demain. »
« Oh !»
fit le père avec un geste de désespoir et en se laissant tomber sans force sur le canapé.
« Qu'y faire ?»
continua Nicolas d'un ton assuré et hardi.
« Cela arrive à tout le monde. »
Et pendant qu'il parlait ainsi, il se traitait au fond de son cœur de misérable, de lâche. Sa conscience lui disait que toute sa vie ne suffirait pas à expier sa faute. Et pendant qu'il assurait à son père, d'un ton grossier, que cela arrivait à tout le monde, il avait envie de se jeter à ses genoux, de lui baiser la main et d'implorer son pardon. À ces mots, le vieux comte baissa les yeux et s'agita d'un air embarrassé.
« Oui, oui, »
dit-il.
« Seulement, je crains, il me sera difficile de trouver. À qui n'est-ce pas arrivé ? À qui n'est-ce pas arrivé ?»
Et jetant un coup d'œil à son fils, il se dirigea vers la porte. Nicolas, qui s'attendait à des reproches, ne put y tenir plus longtemps.
« Papa, papa, pardonnez-moi »
s'écria-t-il en éclatant en sanglots. Alors, saisissant la main de son père et pleurant comme un enfant, il la porta vivement à ses lèvres. Pendant que le fils avait cette explication avec son père, un entretien non moins grave avait lieu entre la mère et la fille.
« Maman, maman, il me l'a faite. »«
Que veux-tu dire ? » ?»«
Il m'a fait sa déclaration, maman. »
La comtesse n'en croyait pas ses oreilles.
« Comment ? » Denisov avait fait une déclaration à cette fillette de Natacha qui, il y a quelques jours à peine, jouait à la poupée et prenait encore des leçons.
« Voyons, Natacha, pas de bêtises, » lui dit avec douceur la comtesse, qui espérait lui faire avouer que ce n'était qu'une plaisanterie.
« Comment des bêtises ? Mais c'est très sérieux !»
dit Natacha piquée au vif.
« Je viens vous demander ce que je dois faire, et vous me dites que ce sont des bêtises ?»
La comtesse haussa les épaules. « S'il est vrai que M. Denisov t'a fait une déclaration, tu lui diras de ma part que c'est un imbécile. »«
Mais non, ce n'est pas un imbécile. »« Eh bien alors, que veux-tu ? Vous avez toute la tête tournée. »«
Si tu en es éprise, épouse-le, et que Dieu te bénisse. »«
Mais non, maman, je ne suis pas éprise de lui. »« Je vous jure qu'il me semble que je ne le suis pas. »«
Eh bien alors, va lui dire toi-même. »
« Ah, maman, vous vous fâchez. Ne vous fâchez pas, chère petite maman. Voyons, est-ce ma faute ?»«
Non. Mais que veux-tu, mon cœur ? Veux-tu que j'aille le lui dire ?»«
Non, je lui dirai moi-même. Seulement, enseignez-moi comment. Vous riez. Mais si vous l'aviez vu quand il m'a fait sa déclaration, je sais bien qu'il n'en avait pas l'intention. Ça lui a échappé.
Soit, mais il faut que tu lui répondes par un refus.
Oh non, il ne faut pas le refuser. Il me fait tant de peine. Il est si bon.
Eh bien, alors accepte-le, car il est vraiment grand temps de te marier, ajouta la comtesse, moitié riant et moitié fâchée.
Pour cela, non, maman. Mais je t'assure qu'il me fait de la peine. Comment lui dire cela?
Aussi bien, tu ne lui diras rien. C'est moi qui vais lui parler, dit la comtesse, qui commençait à trouver malséant qu'on pût considérer cette petite Natacha comme une grande personne.
Non, pour rien au monde. Je lui dirai moi-même. Vous n'avez qu'à écouter à la porte.
Et Natacha rentra en courant dans la salle où Denisov, assis au piano et la figure dans ses mains, était encore à la même place. Au bruit de ses pas, il releva la tête.
« Natacha,
lui dit-il en s'approchant d'elle vivement,
« mon sort est entre vos mains, décidez. »«
Vassili Dmitritch, vous me faites tant de peine. Vous êtes si bon. Mais cela ne se peut pas. Cela ne se peut pas, mais je vous jure que je vous aimerai toujours. »
Denisov s'inclina sur la main de Natacha et il ne put réprimer quelques sanglots étouffés en la sentant poser un baiser sur ses cheveux noirs, crépus et ébouriffés. À ce moment, le frôlement de la robe de la comtesse se fit entendre.
« Vassili Dmitritch, merci pour l'honneur que vous nous faites, » lui dit la comtesse d'un air ému,
qui, cependant, lui parut sévère.
« Mais ma fille est si jeune. »
Et j'aurais pensé que vous vous seriez adressé à moi avant de lui en parler.
« Comtesse, »
lui dit Denisov, en baissant les yeux de l'air d'un coupable et en essayant vainement de trouver quelques mots à lui répondre. Natacha, le voyant si abattu, se mit à pleurer convulsivement.
« Comtesse, j'ai eu tort, »
reprit Denisov d'une voix brisée par l'émotion.
« Mais j'adore votre fille. » Et j'aime tant votre famille que pour vous tous, je donnerais deux fois ma vie.
Mais, remarquant le visage sérieux de la comtesse,
« Eh bien, adieu, »
lui dit-il, et, lui baisant la main sans regarder Natacha, il quitta la salle d'un pas résolu. Nicolas passa la journée du lendemain chez Denisov, qui brûlait du désir de quitter Moscou au plus tôt. Ses camarades donnèrent une soirée d'adieu avec accompagnement de bohémiens et de bohémiennes, et depuis, il ne put jamais se souvenir comment on l'avait emballé dans son traîneau et comment il avait franchi les premiers relais. Après son départ, Rostov, auquel le vieux comte n'avait pu fournir encore la grosse somme en question, resta 15 jours de plus à Moscou sans sortir de chez lui, passant presque tout son temps dans l'appartement des jeunes filles, à couvrir de vers et de musique les pages de leurs albums. Sonia, plus tendre, plus affectueuse que jamais, semblait vouloir lui prouver par là que cette perte au jeu était un exploit véritable et qu'elle ne pouvait que l'en aimer davantage. Tandis que de son côté, Nicolas se regardait désormais comme indigne d'elle. Ayant enfin envoyé les 43 000 roubles à Dologov, qui lui donna un reçu en règle, il partit à la fin novembre, sans prendre congé d'aucune de ses connaissances, et alla rejoindre son régiment qui se trouvait déjà en Pologne.